Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, on a perdu Romain Desarbes, mais il sera là tout à l'heure à midi. Et merci si vous êtes là depuis le début à suivre notre invité, celui qu'on avait découvert en Hervé, agent de star dans la série 10%. Maintenant, c'est lui la star. Nicolas Maury, grand nom maintenant du cinéma, qui sort son premier album après son premier film. L'album s'appelle La Porcelaine de Limoges. Il y aura même un live en direct de ce studio, le studio Coluche. Bonjour Frédéric Le Ternier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
Et je salue Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme vous êtes aussi fragile qu'un petit poussin sans duvet, vous avez regardé une émission qui vous a donné confiance en l'avenir.
Oui Philippe, je suis en plein questionnement en ce moment. J'ai peur du lendemain, j'ai peur qu'un jour je sois assis à côté de vous comme aujourd'hui et que vous ne me remarquiez plus. Fermez les yeux s'il vous plaît Philippe, jouez le jeu.
Ferme les yeux.
Dites-moi comment je suis habillé.
J'en sais rien, en marron.
Voilà, vous voyez ça commence, la routine, l'usure du couple.
Si vous êtes quand même en marron.
Oui mais j'ai d'autres choses, je ne suis pas tout nu. Donc pour calmer mes angoisses, j'ai regardé Idée Astro 100% Voyance sur IDF1. Le titre d'émission le plus compliqué de l'histoire de la télé, on dirait un mot de passe Wi-Fi. C'est diffusé la nuit, j'étais un peu dans le coltard, mais heureusement, ils ont trouvé la médium parfaite pour me sortir de mon demi-sommeil.
Allô, bonjour, Solène Réveil, à votre écoute, pardon, quel est votre prénom ?
Solène Réveil, meilleur nom pour exercer la nuit. Alors comment ça se passe une consultation de voyance la nuit ? Eh ben déjà, cadeau de la maison, quand t'appelles, t'as le droit à un petit compliment.
Quel est votre prénom ?
Anne.
Alors, enchantée Anne, j'aime beaucoup votre prénom.
Je m'appelle Alexia.
Alexia, oh c'est joli Alexia.
Quel est votre prénom ?
Coralie.
Coralie, c'est joli comme prénom, c'est pas courant.
Merci.
Hein.
Avant.
Ouais, même Coralie, elle est surprise. Elle pensait pas que son prénom était si ouf que ça. Mais bon, c'est pour mettre en confiance le client. Parce que oui, c'est payant. Hein. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu payes 1 € les 10 premières minutes. Alors évidemment, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec des voyances à 1 €?
Vous êtes en année 4, année numérologique 4. C'est une année importante sur le plan professionnel. C'est une année de stabilisation. Quelle est votre question ?
Je voulais savoir si j'allais pouvoir avoir un changement de poste.
Ah bah oui, on la sent bien la stabilisation là. mais la médium ne se démonte pas, elle enchaîne. Elle était sur la stabilité. Elle va se servir de l'information que lui a donnée la jeune femme pour changer du tout au tout sa voyance. Maintenant, elle voit un voyage.
Mais alors, j'ai une notion de mouvement, c'est pas le même endroit, non ? Est-ce que c'est possible qu'on vous déplace d'endroit ?
Bah en fait, ce serait deux bâtiments, oui. J'ai demandé dans le bâtiment en face du mien.
Bah oui, bah c'est une forme de voyage, c'est pas le même ascenseur. Hein. Là, Solène Réveil, elle s'est dit, on va se calmer sur les prédictions, faut que je la joue plus sécure.
Alors, je peux pas vous parler de date, parce que c'est pas mon fort, mais il me semble quand même que ça se passe dans un temps normal.
Un temps normal, bah, je pense qu'on ne peut pas être plus précis, mais là au moins elle a eu bon.
Ouais.
Et puis parfois il y a des situations pas très joyeuses. Là, une maman a appelé pour savoir si elle allait avoir des nouvelles de son fils qui avait coupé les ponts et vivait actuellement chez sa grand-mère. Et heureusement, la médium a eu des mots très réconfortants.
Déjà, c'est bien parce que Gauthier, il s'entend bien avec sa mamie là.
Oui.
Mamie, elle essaye déjà depuis un petit moment que les rapports entre vous deux s'arrangent.
Pas du tout, justement.
Bah oui, mais c'est des consultations à 1 €, tu voulais pas du caviar non plus, hein. Et puis à la décharge des voyantes, parfois elles sont pas aidées. Par exemple, quand elles veulent faire de la numérologie.
Je vais aussi vous demander un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît.
Le 7.
Ah non !
C'est
un montage.
C'est
pas possible.
Je vous assure.
Vous n'êtes pas truqué, hein.
C'est pas truqué. Déjà que c'était pas précis, alors si on les aide pas, hein, mais moi j'aime bien cette voyance approximative, faite de doutes et de tâtonnements. Parce qu'à un moment qu'il y a trop d'assurance, ça me fait peur aussi.
Plutôt sentimental, Claudine. Claudine, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans ?
Il y a 5 ans, j'ai perdu mon mari
Voilà, oui. C'est ça, j'aurais voulu que ça sorte de votre bouche. Hein.
Bah d'accord, mais t'aurais pu faire un petit compliment sur le prénom d'abord. Hein. Là, on est direct sur un décès. Et la voyante sait parfaitement pourquoi Claudine ne retrouve pas l'amour.
Je sens une pièce chez vous. On dirait que je ressens son esprit là-bas. Je suis désolée.
Oui, je sais, c'est une photo.
Ouais, c'est une photo. Et c'est là que j'ai compris que ce qui comptait dans ce métier, c'était l'empathie et la douceur.
Je vais être directe. Ce que vous allez faire, vous allez me prendre du gros sel et vous allez me mettre sur cette photo.
Oh mon Dieu, c'est une peinture, madame.
Ah ben, faites ce que je vous dis, s'il vous plaît, si vous voulez rencontrer quelqu'un.
Eh ben ouais, faut savoir ce qu'on veut. Moi, dans ma chambre, j'ai une photo de vous, Philippe.
Oui.
J'ai pris du gros sel, je vous ai bien badigeonné la tronche, et maintenant, j'ai plus peur de l'avenir.
Merci Jean-Luc Lemoyne, t'es atterré Nicolas Caro. Vous serez en spectacle, ça je peux vous le dire moi aussi, je connais l'avenir. Le 3 février, vous serez Biglia. Encore, c'est pas facile à prononcer pour moi. De 16h à 18h, historiquement vôtre comme tous les jours. Aujourd'hui avec Stéphane Bern sur Europe 1 et à demain.
À demain.
Demain, on est le vendredi, sera le bilan de Jean-Luc. Frédéric Le Tournier, votre programme, votre indispensable ce matin, ce sera quoi?
Alors ce sera Habibi, les révolutions de l'amour. On va parler amour bien sûr et identité sexuelle à l'Institut du Monde Arabe.
Et puis j'ai la même question pour Nicolas Caro.
Moi c'est un roman très très chouette. L'histoire d'un jeune professeur qui voulait partir en Guyane et en fait qui est affecté en Auvergne. Et il nous raconte comment il essaye de transformer l'Auvergne en Guyane.
C'est magnifique. Dans un instant, Nicolas Maury, comédien, réalisateur. Mais là, on parlait de chansons, de musique. Il sort son nouvel et son premier album qui s'appelle La Porcelaine de Limoges. On écoute tout de suite le titre Prémisse sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Nicolas Maury.
Bonjour Philippe Vandel.
Content de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes comédien, vous avez tourné avec Bonitzer, Assayas ou Philippe Garrel. On vous a aussi vu dans Les Tuches 3. Vous êtes désormais emblématique pour votre rôle d'agent dans la série 10%. Entre-temps, vous avez réalisé votre premier film Garçon Chiffon, sélection à Cannes au Festival. Film qui a connu une carrière de météore. 3 jours à l'affiche, la tête que vous faites quand je dis ça. Car ensuite, les salles de cinéma ont été fermées à cause du confinement. Et ça a un sens avec ce qui suit. Car votre actualité est en chanson, avec, après un premier single Prémisse qu'on vient d'entendre, voici votre premier album, BOM, je le dis bien, La Porcelaine de Limoges, et une tournée à venir. Et cet album, vous l'avez conçu justement à cause, ou peut-être grâce, au confinement.
Grâce à cette période mazoutée, cet hiver noir et profond que voilà, je ne voulais plus subir. Et donc je me suis dit pourquoi pas enchanter mon petit quotidien.
Vous avez travaillé comment? Vous dites c'est de la musique de chambre et même de chambre d'enfant.
Exactement, je me suis autorisée à ouvrir les fenêtres de ma chambre d'enfant. Et puis j'ai travaillé plus, moins métaphoriquement et plus concrètement avec Olivier Marguerite. Et on
faisait Olivier Marguerite du groupe Sid Matters.
Exactement.
Je cite parce que je suis fan de Sid Matters. Voilà. Pourquoi je le dis?
On est deux,
voilà.
Au moins.
On est plus que deux.
On est plus que deux. Mais non, on s'enfermait à raison d'une chanson par semaine. Et assez rapidement, on en a eu 12-13, voilà.
Mais vous n'êtes pas musicien à la base, c'est lui qui compose.
C'est lui qui compose, alors évidemment c'est lui qui compose, qui réalise l'album. Après j'ai infléchi quand même, j'ai quelques notions, quelques goûts. Et puis j'ai écrit certains textes, mais je trouvais que c'était beau, par modestie, quand on change de pratique, d'art, il faut quand même travailler avec, laisser rentrer les autres, je trouve.
Alors vous l'avez dit, vous avez écrit certains textes. Du coup, je me suis attaché aux chansons dont vous aviez écrit les textes. Il y a donc ce titre « Porcelaine de Limoges ».
Oui.
Qui est dans l'album « La porcelaine de Limoges ». On va l'entendre en live dans une demi-heure, mais sur l'album, ça commence comme ça.
Oh, comme je te revois, tiré sur ton ourlet du bas. Non, maman, ne me laisse pas. Chaque rentrée des classes, tétanisée devant la glace, ils vont me traiter de folasse. Mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières. Recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur.
Pourquoi ce parallèle avec la porcelaine de Limoges, au-delà du fait que vous venez de la région? Qu'est-ce que vous avez en commun avec de la porcelaine?
Eh bien, on a tendance à croire que la porcelaine, c'est quelque chose d'ouvragé, d'un peu chichiteux, d'un peu décoratif et d'un peu parfois vieille France.
Ouais.
Et
c'est pas vrai?
C'est pas
ouvrageux,
vrai parce que...
c'est décoratif.
Mais ça vient...
Chichiteux, je le dirais pas. Mais...
ça vient du kaolin, qui est cette argile la plus dure qui est. Et c'est pour ça que j'aime bien la force des fragiles ou la fragilité des forts. Et il y a une chose que j'aimais bien, parce que c'est très terrien, ça me ressemble assez, parce que c'est très matériel la porcelaine, c'est une glaise qu'on chauffe avec le bois des rivières, comme je le dis dans la chanson, et cette espèce de chose très ancrée pour aller vers le... comme ça, vers le, comme on dit, le superflu nécessaire, et ben ça me ressemble assez.
Vous chantez dans cette chanson, on l'a entendu, chaque rentrée des classes, tétanisée devant la glace, ils vont me traiter de folasse.
Oui.
Votre voix qui vous a valu beaucoup, beaucoup de moqueries,
oui.
On est chez Cocteau, c'est devenu votre atout maintenant.
Oui, je ne savais pas que Cocteau disait ça, mais oui, sûrement.
Ce contre-proche, cultive-le, c'est toi-même, disait Cocteau.
Exactement.
En substance, je cite de mémoire.
Exactement, bah alors oui, c'est vrai. Bah, c'est devenu mon atout, ce n'est pas non plus devenu une revanche ou une vengeance, mais il a fallu vivre avec, il faut encore vivre avec, vous savez, Philippe, même dans le cinéma, un gaillard comme moi, c'est une figure de la masculinité qui n'est pas forcément très, très rassurante.
Même dans le cinéma vous avez des rôles dans le cinéma.
Oui, oui.
Vous êtes même, comme on dit, un des gars qui monte. Donc,
Oui.
Le cinéma ne vous rejette absolument pas.
Non, il ne me rejette pas. Mais je vous assure, ce n'est pas si simple. C'est pas si
Pourquoi
simple.
Parce que la crainte, c'est quoi? C'est l'inverse? C'est d'être caricaturé? Oui. Qu'on ne vous demande que cela?
Tout à fait. C'est que, oui, voilà, d'être réduit, d'être. Mais vous savez, au théâtre, cette voix dont vous parlez, cette voix, elle est un masque, elle est un muscle, voilà. Après, j'ai appris à la dompter. Et bizarrement, en chantant, en me dénudant, j'ai l'impression que ma voix vraiment la plus huile essentielle de ma voix, c'est celle-là qui sort.
La voix huile essentielle. On continue avec Nicolas Maury. On aura un live. On aura 7 chansons en live ici avec une guitariste. On va parler de littérature avec Nicolas Caro. On va parler aussi de beaucoup d'autres choses. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nicolas Maury, il y avait une allitération, La Porcelaine de Limoges. C'est votre premier album qui vient de sortir. On a entendu un titre. On va entendre un titre en live. On va parler littérature avec Nicolas Caro. Vous êtes un grand lecteur, Nicolas Maury.
Oh oui, je suis un grand lecteur et un grand fidèle à mes auteurs chéris.
Qui sont?
Par exemple, Mishima. Là, j'ai redécouvert plein de choses de Mishima. Par exemple, j'ai découvert, je vous conseille, la musique de Mishima. Ça parle de thérapie. C'est hyper beau entre une femme qui n'entend plus la musique et c'est une métaphore pour dire qu'elle n'arrive pas à jouir. Et elle raconte ça à son analyste. C'est très intéressant.
Et c'est un homme qui raconte ça à Mishima, c'est grand auteur japonais.
Qui s'est fait seppuku.
Exactement, qui a une fin tragique.
Fin tragique et en même temps un grand libertaire avec un destin très particulier parce qu'après il est devenu très radical, pro-japonais armé. Mmh. Et sinon, l'autre livre que je conseillerais, c'est L'un l'autre de Peter Stamm, qui est un immense auteur suisse-allemand, qui pour moi est vraiment aujourd'hui un des plus grands auteurs contemporains.
Je me trompe ou votre prochain film, ça va se passer entre la France et la Suisse?
Vous vous trompez pas du tout.
Petit rebond.
Très inspiré de Peter Stamm.
Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, Nicolas, on va pas en Suisse, mais vous nous dépaysez, si j'en crois, le titre du roman. Je suis pas allé chercher loin mon lancement.
Oui, parce que ça s'appelle Un vrai dépaysement.
Voilà.
C'est chez Flammarion. C'est facile. Ouais. C'est le nouveau roman de Clément Bénèche, l'histoire d'un certain Romain d'Astéry, 22 ans, rejeton de la bonne bourgeoisie bordelaise. Il est issu d'une famille d'architectes. D'ailleurs, le roman s'ouvre pendant l'inauguration d'un pont. C'est son frère qui l'a conçu. Lui, l'architecture, bof bof. Il vient de terminer sa formation pour être prof de français. Or, pendant le cocktail qui suit, il entend son père qui dit quelque chose aux gens qui sont là. Quelque chose comme « Oh bah Romain, lui, c'est pas demain qu'il aura son portrait dans Sud-Ouest. » Ouf, ça fait mal.
Ouais.
Sous-entendu, pas comme son frère dont je suis si fier.
Ça fait mal, ça.
N'est-ce pas? Alors Romain avale cul sec quelques coupes de champagne et finit par dire leurs 4 vérités à ses parents. Et au milieu de sa colère, il leur avoue aussi qu'il n'a pas demandé son affectation à Bordeaux, comme il l'avait dit, mais en Guyane. Et qu'ils ne le reverront plus tant qu'il n'aura pas son portrait dans France-Guyane. Voilà. Alors bon, ça va être peut-être un peu compliqué parce que le lendemain, il reçoit les résultats de son affectation et il ne va pas du tout en Guyane, mais en Auvergne, à Chaudeza, un village de 1000 habitants. Il est furieux, il appelle le rectorat, mais il n'y a rien à faire. Il y a eu un bug avec l'algorithme et c'est tout, c'est comme ça. Il doit y aller. Pourtant, il avait déjà acheté sa moustiquaire et tout. Il avait prévu d'explorer la jungle, de révolutionner la pédagogie aussi, parce que Romain est un passionné de pédagogie positive et innovante. Il adore d'ailleurs tout le jargon, le langage de l'institut, les rituels structurants, les conflits socio-cognitifs, ça veut dire la bagarre entre élèves, ouais. Les groupes en motricité, ça veut dire le chahut, etc.
Et tellement, c'est le verbiage néo-prof, plutôt le néo-verbiage des profs. Donc, il va appliquer ses méthodes en Auvergne.
Mais absolument. Déjà, pas de bonjour collectif à la classe. Chaque élève a son check personnalisé. Certains lui tapent dans la main. Pour les autres, c'est un check du pied droit. Les autres, c'est un check du pied gauche, etc. Ça dépend. Et puis, pourquoi ne pas instaurer un peu d'interdisciplinarité? Le prof de sport est d'accord. Et c'est parti pour 3 heures de français EPS avec des questions comme Marcel Proust faisait-il suffisamment d'exercice? Il décide aussi de sortir les élèves de la classe pour leur faire découvrir la nature. Donc, le petit citadin bordelais qui veut expliquer gentiment la nature à des gamins d'Auvergne d'Auvergne. Il ne va pas être déçu, ça ne donnera pas tout à fait ce qu'il espérait. Et surtout, la principale commence à en avoir marre. Il faut dire que c'est son exact opposé. Elle, elle organise des journées 3e République. Elle éteint le chauffage, les élèves passent une blouse et on sert du gras double à la cantine. C'est un roman, voilà. Très drôle, vous avez compris. Une satire, non pas de l'école, mais des certitudes. C'est aussi diablement intelligent et surtout avec un ton qui sonne très très juste. Il y a du Marcel Aimé là-dedans. C'est enjoué, c'est drôle, c'est très très bien écrit. Clément Bénèche est un grand connaisseur de littérature par ailleurs. Et voilà, c'est un très bon roman, un vrai dépaysement.
Vous allez voir Nicolas Maury, je vais lui poser une question et pas me répondre. Et ça se finit comment avec les parents?
T'as raison.
En général, il me dit, vous verrez, faut lire le livre, vrai ou pas?
Non, mais par contre, c'est magnifique cette balade dans la nature avec les gamins auvergnats et lui, c'est le citadin, il leur dit ça c'est un faucon machin et le gamin il dit non, pas du tout, ça c'est une buse truc. Et ça, c'est ce champ-là, vous voyez, c'est du maïs pour que vous puissiez manger à la cantine. Ah non, non, ça monsieur, c'est
du maïs.
Non, ouais. C'est du maïs pour les bêtes. Mais non, mais si, c'est le champ de mon père, monsieur.
Voilà. Et on pense aux chasseurs qui confondent les cyclistes avec des sangliers. Oui. c'était bien raconté. Non, c'est tentant, ça pourrait faire un film.
Ça pourrait faire un film, ça pourrait faire un peu le film de ma vie aussi. Hein. C'est
en quel sens?
Entre Radéville, Radéchamps, là d'où on vient. Bah, moi, je porte ça. Moi, je parais à Paris. Vous savez, on dit souvent que les vrais Parisiens, c'est ceux qui mentent un peu.
Bien sûr, Rastignac.
Rastignac, exactement. Ou aussi, je me souviens que Philippe Garrel, avec qui j'ai tourné, disait que ceux qui s'habillaient le mieux, les plus grands dandys, c'était les fils de concierges. Parce qu'ils faisaient croire qu'ils avaient, dans les sociétés parisiennes, plus d'argent. Je trouve ça toujours beau, comme disait aussi Pasolini, l'aristocratie du peuple, c'est-à-dire on est des aristocrates, mais du peuple. Et j'aime bien ces mélanges de choses.
Nicolas Maury, qui cite des grands auteurs et qui va se citer lui-même, Porcelaine de Limoges, c'est le live qui arrive dans Culture Média. Votre guitariste se prépare. À tout de suite, c'est un plaisir.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
Il est 10h31 et 12 secondes. C'est vous dire qu'on est en live, on est en direct. En direct, ça veut dire que ça se passe maintenant en live. Ça veut dire qu'ils vont chanter et jouer pour de vrai. On est avec Nicolas Maury, il sort son premier album La Porcelaine de Limoges. Et sur cet album, le titre qui lui donne la chanson qui donne ce titre, c'est Porcelaine de Limoges. Il n'y a plus d'article. Nicolas Maury avec nous, à la guitare, c'est Ingrid Samitier. Porcelaine de Limoges, c'est le live de Culture Média.
Europe 1. Le live Culture Média.
Oh, comme je te revois, tiré sur ton roulet du bas. Non, maman ne me laisse pas. Chaque rentrée des classes. Devant la glace, ils vont me traiter de folasse. Mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières. Recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, daté signé à l'intérieur. Toi, porcelaine de Limoges. À l'heure de la récré, rendez-vous sur l'arbre coupé, garçon basket, fille poupée. Un prince à la seconde, retour à tes forêts profondes, mais un enfant ça doit jouer. Mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières. Recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, daté signé à l'intérieur. Toi, porcelaine de Limoges, cette figurine a des défauts d'usine. Cette céramique est-elle une pièce unique? Déformée, fêlée, ébréchée, tachée, ces défauts peuvent être réparés. Dans les ateliers, rangé dans une vitrine, sombre destin de barbotine, tu rêves d'une vie de citadine. Pays de la Madeleine, de la châtaigne, des pommes golden, je te quitte, toi, monter sur scène. mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin chauffé par le bois des rivières. Recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur. Moi, porcelaine de Limoges.
Merci beaucoup Nicolas Maury à la guitare, Ingrid Samitier, c'était en direct, c'est en direct pour rester là sur ce micro. Et je notais les paroles parce qu'il y a un passage parlé dans la chanson, figurine avec des défauts d'usine,
oui,
c'est vous ?
C'est exactement moi, et c'est pas que moi, c'est tous ceux qui se reconnaîtront. Les défauts peuvent être réparés tout au long d'une vie.
Mais c'est quoi vos défauts d'usine ?
Marque de fabrication, le poids, la culpabilité dans la famille, enfin des genres, les choses qu'on connaît, non ?
Voilà, pas forcément. On parlait tout à l'heure avec Nicolas Carreau des gens qui disent, qui ont des attentes et des parents qui ne sont pas celles qui étaient prévues. C'est le principe des attentes, elles sont souvent déçues. Oui. Quelles étaient les attentes de vos parents ?
Que j'aille jouer avec les autres dans la cour d'école, déjà, j'avais pas l'option en moi. C'est comme une voiture, on ne sait pas qu'il y a des essuie-glaces. Ben moi, je ne savais pas qu'il fallait jouer avec les autres. Donc, j'étais seule. Quand je dis...
Et vous étiez le petit garçon qui n'aimait pas le sport ? Parce que aussi, ça, c'est, vous le dites.
Aussi, et puis j'étais entre choisir les filles poupées ou les garçons basket, je n'avais pas d'autre option. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que peut-être le théâtre et puis peut-être le chemin d'être interprète serait mon sport.
Et maintenant, vos parents, comment ils prennent votre ascension ?
Eh bien, ils sont là. Enfin, ça m'émeut, mais dans ce chemin, je suis un fils particulier parce que... Je les surprends beaucoup. Moi, j'ai arrêté tout pendant 2 ans et demi pour être chanteur. Personne ne m'a demandé. Mais ils me soutiennent. Mais de façon discrète, mat. Le Limousin, c'est une terre mat. C'est pas brillant dans le sens où... Mais les gens sont là. C'est des gens de cœur. Voilà.
Je vous sens très ému, Nicolas Maury. On marque une courte pause. Culture Média revient. On va parler d'exposition. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Nicolas Maury. On vient d'entendre ce live Porcelaine de Limoges. On va parler d'exposition. Vous avez le temps d'aller dans les expos ?
De moins en moins, parce que voilà, je répète mon live en ce moment. Mais j'essaye, oui. Les dimanches, j'aime bien.
On va donner ensuite les dates du live et les villes de France dans lesquelles on pourra vous voir. Et pas seulement la France, il y aura aussi la Suisse. Bonjour Frédéric Le Ternier.
Rebonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce jeudi, vous avez envie de nous emmener à l'Institut du Monde Arabe.
Exact Philippe, car c'est là que se déroule en ce moment une exposition courageuse qui fait beaucoup parler d'elle. Ça s'appelle Habibi, les révolutions de l'amour. Et qui d'ailleurs est prolongée jusqu'au 19 mars, tant elle a su intéresser le public. Alors le sujet, comme partout ailleurs, eh bien, des luttes se jouent dans le monde arabe pour pouvoir exprimer librement son identité de genre et sa sexualité. Et les soulèvements populaires de ces dernières années ont donné, et c'est tant mieux, on s'en réjouit, plus de visibilité au militantisme LGBTQIA+. Mmh.
Donc les artistes... Il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays arabes qui sont à 2 heures d'avion de Paris.
Exactement.
Où l'homosexualité est condamnée, sinon de la peine de mort, mais en tout cas de prison.
Tout à fait. Alors les artistes ici, 23, questionnent donc ce sujet, témoignent, revendiquent, que ce soit par le biais de photos, de peintures, de vidéos, de néons, d'installations, de romans graphiques, il y a plein de choses sur 750 mètres carrés d'exposition. En bref, vous l'avez compris, ils en appellent à la liberté d'aimer tout simplement, quelle que soit son orientation. Et la plupart du temps, eh bien, le résultat est bouleversant. À noter, c'est important, certaines œuvres sont uniques et nous ne pourrons les voir qu'à cette occasion.
Alors faites-nous un peu le tour.
Avec plaisir Philippe. Au total, il y a 90 œuvres. Et dès qu'on entre, en fait, on est attiré tout de suite par un écran qui projette un film de 13 minutes de Tarek Lakrissi. Ça s'appelle Out of the Blue. Et en fait, c'est un conte post-apocalyptique où une ère conservatrice toucherait à sa fin avec l'arrivée d'ennemis indéterminés. Les rapports sont inversés, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Les plus faibles seront sauvés, à l'image du héros, un jeune homme qui se travestit. L'avenir sera queer, une belle revanche. Voici un extrait.
Non, vous ne rêvez pas. La ville est en ce moment même le théâtre d'une attaque d'aliens, ou d'ovnis, ou d'extraterrestres. Nous ne savons pas comment les identifier. Nous ne connaissons pas précisément leurs motivations ni leurs désirs. Mais nous savons qu'ils, ou elles, ont enlevé principalement tous les PDG des grandes entreprises, ce que nous appelons les vieux pères ou les grands maîtres, et épargnent les plus vulnérables d'entre nous,
ça fait réfléchir, n'est-ce pas? On déambule ensuite pour se retrouver dans une chambre, celle du duo d'artistes libanaises Jeanne et Moreau, autrement appelées Lara Tabet et Randa Mirza dans le civil. Et en fait, elles ont voulu figer cet espace amoureux où elles se trouvaient durant le confinement. Ça les a inspirées aussi un peu comme vous, Nicolas Maury, le confinement. Mais alors cet espace intime devient interactif ici avec le public. Et c'est d'ailleurs là que nous nous sommes retrouvés pour échanger avec Élodie Bouffard, c'est la commissaire de l'exposition.
Et on a aussi bon, la chance d'avoir une installation. D'ailleurs, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais là, nous sommes donc assis sur un lit où le public est invité à se coucher, à s'asseoir, à rentrer aussi dans un téléphone pour tout simplement voir la documentation d'une relation amoureuse entre deux artistes, Lara Tabet et Randa Mirza. Et ce téléphone, en fait, il est comme tous les téléphones, il fait des selfies. Et donc, en fait, on se retrouve également avec des centaines de photos, tout simplement, que le public offre aux artistes. Voilà, donc des messages qui sont tout simplement laissés aussi sur le téléphone. Et en fait, ça fait un peu la magie aussi de ce projet et le fait qu'en fait, il ait effectivement trouvé son public. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir.
Moi, j'ai pas fait de selfie, j'ai pas osé en laisser aux artistes. Je me suis dit que ça allait pas les intéresser. Mais bon, j'ai quand même continué la visite et puis on va contempler des sculptures, des toiles assez osées. Je pense par exemple au gouache de Kubra Academy, j'espère que ça se prononce bien. C'est une artiste afghane réfugiée en France et qui représente des femmes s'adonnant entre elles aux plaisirs érotiques. Il y a aussi les clichés de Sally Bachir, c'est un photographe soudanais qui suit, lui, le parcours d'Essam, un homosexuel expulsé de la maison familiale. Ah, il faut aussi que je vous emmène, ça c'est dans la salle du bas, consacrée à ce qu'on montre à la société. L'Institut du monde arabe l'a appelé la ballroom, la salle de bal en fait, où sont donc présentées une sélection de clips vidéo d'artistes et de performeurs qui mixent, références de la pop culture arabe et musiques actuelles. On y voit pas mal de drag queens, ça fait un peu penser à l'esprit cabaret, mais surtout ça donne sacrément envie de danser, ça donne ça.
Il est bien ce son, hein ?
J'adore.
Vous connaissiez ou pas ça ?
Moi, je ne connaissais pas du tout, mais j'adore.
C'est vachement bien. C'est le groupe libanais qui s'appelle Mashrou Leila, qu'on entend ici, qui a eu des soucis justement avec.
L'expo est tout public ou non ?
Alors non. Comment vous dire, Philippe ? On ne va pas y aller avec des enfants, ça c'est certain, parce qu'il y a quand même beaucoup de représentations de la sexualité. Mais sinon, sachez que ça parle à absolument tout le monde, hétérosexuel, homosexuel, transgenre, peu importe. Parce que ce dont on parle ici, c'est d'amour. Et l'amour, vous l'avez compris, c'est universel. Alors, Élodie Bouffard insiste, la commissaire de l'exposition insiste sur l'importance d'ailleurs de l'avoir faite entièrement. Traduire cette exposition, on l'écoute.
Le choix a été fait de traduire dans l'intégralité l'exposition en arabe, qui était aussi finalement un acte fort, puisque l'arabe est la langue de l'amour et bien sûr de tous les amours.
Habibi, les révolutions de l'amour, c'est à voir à l'Institut du monde arabe. Ça dure jusqu'au 19 mars, vous nous l'avez dit, ça a été prolongé.
Oui.
C'est ouvert le dimanche ?
Tout à fait, Nicolas Maury peut y aller.
Voilà, il peut voir les expos que le dimanche. C'est beau, non ? Ça vous plaît ?
Ça me plaît, c'est très érotisant. Non, mais c'est beau de... Ben, tout le monde s'est construit sur des histoires ou des clichés de hétérosexuels. Pourquoi pas ? Des hétéros pourraient se construire sur des clichés transgenres.
Frédéric Le Tournier, merci. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Nous sommes avec Nicolas Maury. On n'a pas encore parlé de cinéma, c'est dingue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Nicolas Maury, son premier album, La Porcelaine de Limoges, on a entendu un live. On parlait avec Frédéric Le Tournier de ses nouvelles sexualités. Il y a beaucoup de textes dans cet album qui chantent l'amour des garçons. Tout n'a pas été écrit par vous. Certains ont été même écrits par une fille.
Exactement.
C'est là où c'est assez étonnant.
Oui, c'est Shanti Massoud qui me fantasme. J'aime bien être fantasmée par une femme qui aime les hommes. Hein, c'est pas... Mais elle me fantasme. Alors parfois, elle exagère un peu, mais bon, c'est bien.
Elle flatte
aussi. Non, mais n'empêche, c'est pas si courant. Je crois même que c'est assez nouveau de.
Je vais vous dire, moi, j'avais jamais vu. Alors peut-être que ça existe. En tout cas, j'ignorais, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, voilà une question intéressante.
Bah souvent, il y a des allusions, c'est-à-dire quand de l'amour d'un homme vers un autre homme, mais de l'exprimer à ce point-là, il y a même une chanson qui parle carrément de l'organe masculin.
Souvent, ça existait, mais ils faisaient des paroles mixtes. Les chanteurs dont ils ne souhaitaient pas qu'on sache quelle était l'orientation, par exemple, ils disaient « j'aime tes épaules ».
Ah.
Donc comme ça, comme les
tout
hommes...
Monde comme a des épaules.
Tout le monde a des épaules, et comme ça, on ne prenait pas de risque. Ou alors, ils faisaient avec les prénoms.
Ah, genre Dominique
Non, mais par exemple, on dire « je vais la retrouver » ou « le retrouver », ils disaient « je vais l'étreindre ». Donc comme il y a un L apostrophe, on ne peut pas deviner si c'est masculin ou féminin.
Incroyable.
J'avais remarqué ça chez un chanteur et ça m'avait justement étonné. Il y a des titres qui sont de vous. Il y a un titre que vous avez écrit, il s'appelle vers les falaises. Là encore, j'avais jamais entendu ça. J'en ai pas le souvenir. C'est un chanteur qui parle de lui en citant son nom dans une chanson.
Tu crois que je pleure? Je ne sais même plus. Peut-être qu'un jour, à l'intérieur d'une autre organisation temporelle, je te rendrai heureux. C'était beau de t'aimer. Je sais que nous deux c'était écrit. Le bonheur nous attendait. Notre amour était important pour l'univers. Un jour, dans cette vie ou une autre, on se retrouvera et on fera l'amour comme jamais. Je m'appelle Nicolas Maury. J'habite un 48 mètres carrés parisien dans un quartier central. Je pense à toi, qui a déposé tes clés dans ma boîte aux lettres. À cette histoire qui ne sera jamais du passé. Et au fakir qui marche sur du verre jusqu'à ne plus avoir mal. Je ne suis ni un fakir, ni une diva. Si je marche sur du verre, ce n'est ni pour autrui, ni pour être vu, ni pour un spectacle.
C'est du jamais entendu, c'est inouï au sens étymologique du terme. Vous dites, je m'appelle Nicolas Maury, j'habite un 48 mètres carrés parisien dans un quartier central. Pourquoi ces précisions?
C'est le texte, cher Philippe, le plus nu, le plus immédiat, le plus sans peau que j'ai écrit. Et parfois, je me dis, je suis complètement tarée. Mais en même temps, je trouve ça beau. Vous savez, cette phrase, plus on se voile, plus on se dévoile, plus on se dévoile, plus on se voile. Mmh. C'est finalement dans nos vies, dans nos chemins d'artistes, c'est ça. Je crois qu'il faut beaucoup donner pour être artiste. Et là, j'ai donné tout.
Et j'aime aussi beaucoup cette phrase, cette formulation même. Peut-être qu'un jour, à l'intérieur du... On saura peut-être un jour, peut-être qu'un jour, à l'intérieur d'une autre organisation temporelle, je te rendrai heureux. Mmh. C'est organisation temporelle. D'où vient ce terme?
Parce que moi, je voyage beaucoup dans ma tête. Et oui, il y a des organisations temporelles. On peut... Je ne sais pas ce qu'on appelle...
Non, mais on dirait un terme de DRH.
Mais oui, mais c'est une figure poétique. C'est... Ma vie est tellement désorganisée que j'ai voulu écrire ça.
Il y a aussi ce titre, À ma fenêtre le matin, un titre, encore une fois, très très personnel.
J'ai toujours été seule, sans maison à moi, sans être un homme non plus, sauf depuis toi. Tu es le seul homme dont je pourrais dire qu'il est celui de mes rêves. Celui qui fait que j'ai arrêté de me perdre. Celui qui m'a fait tomber de ma lune. Nicolas est dans la lune. Il est sur sa planète. Ou encore, Nico, redescends. Reviens. Je suis là. Et maintenant, je chante. À ma fenêtre le matin.
C'est quoi cette allégorie? Ça veut dire quoi, ma fenêtre le matin?
Ben c'est, vous savez, pour moi, tout part de la chambre, de ces voyages immobiles, la chambre à soi. Mais je me suis rendu compte que même en déménageant, en devenant comme ça une apparence d'adulte, je recréais toujours cette chambre d'enfant dans laquelle je suis tout le temps. Mais là, j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre. Et de chanter pour m'autoriser à faire rentrer l'air un petit peu.
Puisque vous parlez de chambre, je reste dans l'allégorie. Vous avez encore votre chambre d'enfant chez vos parents?
Non, parce que mes parents ont divorcé. Ben, c'est presque ouais. Ça, mes chers analystes. Mmh. C'est parce que c'est bien pour ça que j'y suis attachée, accrochée à cette chambre, parce que je n'ai plus de chambre, non.
Il y a aussi Kerenan qui vous a écrit une chanson.
Oui.
Comment s'est faite la jonction?
Oh, c'était fou, j'avais fait une émission...
Attendez, je vous interromps, on va entendre quelques notes, on parlera par-dessus, tant pis pour Kerenan, mais comme ça on voit à quoi ça ressemble, parce que c'est un autre univers. Kerenan, ce titre s'appelle « Ou un baiser ».
Oui.
Ça fait des verres et des mégots, des chansons tristes et des ragots.
Alors,
comment s'est faite la jonction ?
Elle m'avait entendu chanter dans une émission de télé une chanson qui clôturait le film Garçon Chiffon à l'époque, oui, que j'avais fait. Et j'avais chanté cette chanson dans une émission de télé. Je ne connaissais pas Karen Anne. Et puis j'étais en Suisse, je me souviens, elle m'a appelée. Elle m'a dit, écoutez, avec Dorian, on vous a écrit 6 chansons parce que pour une note très particulière de votre voix masculine, je cherchais cette interprète-là. Et donc, elle ne savait pas que j'avais déjà commencé un album.
Incroyable.
Et j'ai bu beaucoup de vin rouge avec elle. Et j'ai écouté 6 chansons. Elle s'est mise au piano. Donc sûrement, il y en aura trace dans le prochain album.
Tellement génial, le outing, le vin rouge et Karen Anne. Il y a une tournée. Il va y avoir des concerts. Je vais donner les dates. Je vais commencer par les villes, évidemment. Reims le 10 février, Bordeaux le 16, Nîmes le 17, Lyon le 18. On parlait de la Suisse, Lausanne le 2 mars, Clermont le 4 mars. Et puis ça se termine à Paris le 31 mars au Café de la Danse. On va voir quoi sur scène ?
Et les francophonies de La Rochelle.
Et les franco, j'avais oublié.
Le 13 juillet, non mais je suis très heureuse, je suis très fière.
On va voir quoi sur scène ?
Alors il y aura un espace tout blanc, des voilages, des musiciens extraordinaires. Et puis, une petite surprise, ce sera un peu comme... c'est la jointure de moi, l'animal de scène que je suis, comme, venant du théâtre, l'animal aussi du cinéma. Et je veux faire se rencontrer le chanteur maintenant.
J'ai lu ceci dans le journal Le Temps, le journal suisse, scénographie digne d'un décor de Marivaux.
Ah ben ça c'est eux qui le disent.
Vous ne l'avez pas vu ? Vous l'avez pas lu ? Ben je vous dis, voilà ce qu'on dit de vous.
Je ne savais pas.
Un mot de cinéma, où en est votre deuxième film ? Ça se passe entre la France et la Suisse, c'est bien ça ?
Oui,
Est tourné, il est monté, il est financé, vous en êtes où ?
Il est encore en écriture et mais il va se faire. Ce film s'appellera Mon oiseau par la fenêtre. Encore une fenêtre.
Encore une fenêtre. 10%, on sait qu'il y aura une suite à 10%. Fanny Herrero, sa créatrice et son autrice, est en train d'écrire un long métrage. Vous êtes de la partie ?
Évidemment, mais ils vont se tirer les cheveux pour tous nous réunir, vous imaginez ?
C'est pour ça que c'est un long métrage et que c'est pas une série, parce que sinon on peut plus caler. Vous étiez semi-inconnu vous-même, Grégory Montel, Laure Calamy, Camille Cotin, et maintenant vous avez des agendas de ministre.
Oui, c'est vrai, je dois l'avouer.
Ça se tourne quand ?
Vous voulez tout savoir. Non, normalement en 2024, début 2024.
Et je reviens à ce qu'on s'était dit. Votre personnage d'Hervé dans 10%, il a changé votre vie, il y a un avant et un après. Mais vous dites aussi qu'il a changé votre relation, j'ai adoré lire ça, avec votre propre agent.
Oui, je l'ai quitté du reste. Mais oui, ça a changé parce que... Moi, j'avoue, c'était toujours très abstrait pour moi, les agents.
Je ne poserai jamais cette question-là, mais comme dans la série, vous jouez un agent, c'est là où c'est drôle.
Oui, c'est drôle. Après, bon, j'avoue que Hervé, je l'ai beaucoup chargé, hein, quand même, l'animal. Donc, non, mais moi, j'adore jouer les drames de bureau. Je suis sûre que, par exemple, ici, à Europe 1, il y a plein de choses à faire sur la maison de la radio.
Il n'y a pas un endroit... La maison de la radio, c'est une autre maison,
oui,
ça, c'est
sais,
la maison
Europe 1.
Mais de toute façon, il n'y a pas un endroit où on ne peut pas faire des histoires sur des drames qui se passent
sur
dans les bureaux.
C'est et génial. Sur les coulisses. Sur la libido dans les bureaux.
Dernière phrase, vous dites que le meilleur conseil qu'on vous ait donné, c'est celui-ci. Arrête d'être un égocentrique que tu n'es pas. Ça veut dire quoi ?
Non, arrête d'être un égocentrique qui ne s'aime pas. Ben, tout est dit, c'est-à-dire quelqu'un... oui, c'est toujours les contradictions. Je suis pétrie de contradictions. C'est-à-dire que penser à soi tout le temps, mais en même temps ne pas se dire oui à soi-même.
Vous dites oui à votre chat ?
Oui.
Comment il s'appelle ?
Gugus.
J'ai lu, je me suis dit, mais c'est vraiment la question WTF. C'est vrai que vous savez ronronner avec lui ?
Oui, bien sûr. Il ronronne pour moi, pour filtrer mes mauvaises énergies, et je ronronne pour lui.
Comment ça fait ? J'aurais jamais cru quand j'ai lu ça hier soir. Je me dis, c'est pas possible, il va pas le faire, il l'a fait. C'était un bonheur de vous entendre ronronner à ce micro. Un grand, grand merci. Nicolas Maury. Un grand bravo également. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec une comédienne, écrivaine, Macha Merrill. On parle de cette pièce Une étoile. Et puis, juste après le flash, Julien Vignali et Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Bonjour, le brame du jour.
Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Êtes-vous fidèle en amour ? Elle vous pose la question cash comme ça.
Je vais poser la question à Nicolas Maury. On a l'impression que ça change de petit ami entre chaque chanson.
Je suis fidèle, oui, mais je suis très jaloux.
Ça n'est pas un problème, être fidèle et jaloux, nous allons en parler. La question qu'on va vous poser, c'est êtes-vous fidèle en amour ? Parce que pour beaucoup, elle est indispensable, cette fidélité à une relation amoureuse, ou même dans le domaine amical. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est peut-être pas aussi nécessaire que ça. Nous aurons notamment un grand psychiatre avec nous pour nous parler de la fidélité, mais aussi Lucille Bellan, qui est journaliste et auteure, et qui, elle, pratique le polyamour, par exemple.
Soyez fidèle à Culture Média. À demain, 9h. Merci encore. encore, Nicolas Maury.
Merci Philippe.